Grand, grand plaisir de se retrouver à la Yeshiva Online en mode journée exceptionnelle. Et je précise pour toutes les personnes de la Yeshiva Online de l'année précédente qui sont dans un dilemme existentiel terrible, puisqu'ils se disent « Mais qu'allons-nous faire ? Nous n'avions pas terminé Messilat Yesharim avec le Rav Fizon, et là, il y a marqué qu'on va commencer un Aya. Comment est-ce possible ? Eh bien, je vous rappelle que pendant l'été, nous avons, je vous ai terminé presque le Messilat Yesharim. J'ai envoyé ce matin, j'ai posté l'avant-dernier cours du chapitre 25 en vous disant que Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, donc demain matin, j'essaierai Bezrat Hashem de terminer le Messilat Yesharim. Comme ça, vous aurez tous les cours du Messilat Yesharim. On aura donc terminé le livre ensemble et qu'on pourra donc commencer Enaya comme il se doit.
Et je couperai, mais pour retrouver tous les cours de la Yeshiva Online sur la chaîne YouTube Yeshiva Online, Yeshiva Orot Vekelim, Yeshiva Online sur YouTube. Toda rabba rabba.
Voilà. Tom, alors allons-y les amis. C'est parti. On m'a demandé de faire un cours, alors on m'a pas dit Dafka Rosh Hashanah, on m'a dit les fêtes. J'ai demandé après, mais alors de quoi va parler le Rav Cherki et de quoi va parler le Rav Benarosh, comme ça, je ne parlerai pas de la même chose. Et on m'a répondu, eh bien c'est une très bonne question. Résultat des courses, je me suis dit qu'on allait faire ensemble une préparation sur le processus général de toutes les fêtes. C'est-à-dire qu'on va parler et de Rosh Hashanah, et de Yom HaKippurim, et de Chag HaSukkot, Shmini Atzeret, pour comprendre en fait le rapport d'abord qu'il y a entre toutes ces fêtes, et surtout, eh bien, la finalité de toutes ces fêtes-là. Où est-ce que ça nous emmène ? Nous allons rentrer dans le premier Tishri. Où est-ce qu'on arrive à la fin du mois de Tishri ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas, David, si tu veux mettre... En parallèle les sources. Allons-y. Donc, je vais commencer, Dafka, avec une phrase. Une phrase en yiddish, évidemment. Une phrase du Rabbi de Lubavitch. Une phrase du Rabbi de Lubavitch. Alors, je ne vais pas forcément vous la dire directement en yiddish. Je vais la traduire directement en français. Le Rabbi de Lubavitch dit dans le livre Torat Menachem, dans la deuxième partie, à la page... Perek 70, il nous dit la façon dont on se tient à Shabbat Bereshit, eh bien, c'est la façon dont on va se tenir toute l'année. Il semblerait que le Shabbat Bereshit, qui vient donc clore les fêtes de Tishrei, puisque Shabbat Bereshit, c'est celui qui suit Simchat Torah, voilà, ça c'est fait. Eh bien, nous dit le Rabbi Lubavitch, la façon dont tu arrives à Shabbat Bereshit, eh bien, c'est la façon qui va rester chez toi toute l'année. Donc, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Venons, on laisse cette phrase de côté, on y reviendra plus tard. Alors, allons-y. Quand on regarde ce qui s'est passé samedi soir dernier, c'est-à-dire pas hier soir, mais il y a une semaine. Eh bien, il y a une semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les Ashkenazim ont décidé de commencer à demander pardon. Eh oui, les Sfaradim font déjà les Slichot depuis le début du mois de Elul. Et les Ashkenazim ont l'habitude de se retrouver seulement soit le Shabbat, enfin le Motsei Shabbat avant Rosh Hashanah. Et si jamais ça tombe un lundi ou un mardi ou un dimanche, bon, dimanche pas possible, mais un lundi ou un mardi, alors on fera le Motsei Shabbat d'avant. Donc, autant vous dire que cette année, les Ashkenazis... On m'avait coupé le sifflet. Donc, autant vous dire que cette année, les Ashkenazis sont extrêmement remontés parce qu'au lieu de faire 3 jours de Slichot, eh bien, on a dû faire 7 jours plus de les Slichot de Erev Rosh Hashanah, 8 jours de Slichot. C'est énorme, c'est énorme. Bon, je me moque un petit peu en tant qu'Ashkenaz, j'ai le droit, mais quand on regarde le contenu de la première des Slichot Ashkenaziot, on se dit, ce serait pas un peu se moquer du monde? On nous dit Bemotsae menucha kida menucha techila. On nous dit, c'est à la sortie de Shabbat qu'on t'a précédé en premier lieu. Et là, j'ai envie de te dire, alors que les Sfaradim, ça fait 3 semaines qu'ils se lèvent à 4h du matin, toi, tu viens et tu dis, à la fin de Shabbat, on s'est précipité pour te précéder. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette inyan des Slichot? Et en fait, je pose la question suivante. Pemet, ça sert à quoi, les slichot? Nous dit le Shulchan Aruch, Orach Haim, Siman Tavkuf Pe Aleph, Noagim Lakum Be Ashmoret, on a l'habitude de se lever avant la première lueur du jour, Lomar Slichot Vetachanunim. Ok. Mirosh Rodesh Elul va Elach ad Yom HaKippurim. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch et c'est le minag des Sfaradim. Le Rema, Rabbi Moshe Yisserles, le Shulchan Aruch des Ashkenazim, va dire « Uminag bene Ashkenaz ha'inoken » C'est pas comme ça qu'on fait. « Ela Mirosh Rodesh va Elach matrilim litkoa b'shofar » Acharet filat shacharit. Donc nous, on commence à sonner du shofar chez Sfaradim aussi, vous me direz. Veyesh mekomot shetokim gam be'arvit, et des fois on fait même le soir. Veomdim be'ashmoret lomar slichot beyom rishon shelifnei rosh hashana. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si jamais, nous dit le Réma, ça tombe un lundi ou un mardi, eh bien on fera le motzé Shabbat d'avant. Et là, la question que j'aimerais poser, alors je sais que la majorité des gens qui m'écoutent ne sont pas forcément ashkénazes, et pourtant je pose la question. Ne vous inquiétez pas, je la poserai également pour les Sfaradim. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que les Slichot Ashkenaziot allaient commencer tout le temps Motsei Shabbat? En vérité, ça veut dire qu'on s'en fiche de la date. Alors que chez les Sfaradim, c'est le premier Elul. Est-ce que c'est un Motsei Shabbat? Peut-être. Est-ce que c'est un lundi, un mercredi? On s'en fiche. C'est le premier Elul. Et je trouve que ça a quelque chose d'un petit peu plus logique que de dire non, on fait ça le Motsei Shabbat, le dimanche avant Rosh Hashanah. Ma, ça peut être le 27 Tishré, ça peut être... Non, mais jamais. Pourquoi cela? Quelle est la raison? Eh bien, il y a une raison qui est fondamentale qui est amenée par le Mishnah Brura. Et vous inquiétez pas, je reviens chez les Sfaradim juste après. Mais la raison qui est amenée par le Mishnah Brura est une raison absolument incroyable. Nous dit le Chafetz Chaim, pourquoi à Tam, chez Kavu Arba Yamim? C'est-à-dire que normalement, c'est au minimum 4 jours. On a dit Rosh Hashanah le mercredi, donc on a dit dimanche, lundi, mardi et mercredi, Erev Rosh Hashanah. Donc pourquoi est-ce que c'est un minimum de 4 jours? Pourquoi est-ce qu'on a décidé 4 jours? Dit le Mishnah Brura, Sheken Matsenu Bekorbanot Bikur Mimum Arba Yamim Kodem Akrava. Lorsqu'on fait un korban, eh bien, le korban, on doit le vérifier 4 jours avant le moment où on va le sacrifier, pour vérifier qu'il n'y a pas eu, eh bien, de moum, de problèmes physiques qui rendent le korban interdit et impropre au sacrifice. Et donc nous dit le Mishnah Brura, or, dans la mesure où lorsqu'on va parler des korbanot de la paracha de Pinchas, on nous dit Veikravtem Ola, à chaque fois on nous dit et vous ferez un sacrifice un tel ou un tel animal, à propos de Rosh Hashanah, il y a marqué Veasitem Ola. Non pas Veikravtem et vous sacrifierez, mais Veasitem Ola et vous ferez un hola. Nous dit le Mishnah Brura, le lamed sheberosh hashana yaase adam atzmo keilu makriv et atzmo. L'homme se considère lui-même comme étant le sacrifice qu'il veut rapprocher à Dieu. Et donc, de la même façon qu'on va vérifier les sacrifices 4 jours avant de les mettre sur l'autel, eh bien, on se vérifie 4 jours avant. Ça donne une explication de pourquoi les Ashkenazim. Pourquoi font-ils cela 4 jours avant Rosh Hashanah? Mais cela veut dire aussi que je me sens comme étant, eh bien, ce qui va faire le lien, comme le Corban. Le Corban, je vous rappelle, j'ai entendu le Rav Cherki tout à l'heure qui parlait d'expiation. C'est évidemment un des rôles du Corban. Il y en a un autre qui est l'Ekarev, Corban, Milachon, Kirouv, Karov. Et donc, ça doit faire le lien entre le ciel et la terre. Ce qui voudrait donc dire que les slichot sont là pour me préparer à faire ce lien entre le ciel et la terre. Très bien. Mais la question reste posée au niveau des Sfaradim. Au niveau des Sfaradim, pourquoi est-ce que eux font les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul ? Vous allez me dire, c'est normal. À Rosh Chodesh Elul, c'est le moment où Moshe Rabbeinu a demandé pardon. Eh bien, je vous dirais que non. Non, pas du tout. C'est faux. À Rosh Chodesh Elul, Moshe n'a pas du tout demandé pardon. Je vous rappelle les événements. Lorsqu'il y a eu le Mahamad Ar-Sinaï, Dieu se dévoile au peuple juif, le 6, Mahloket, le 7, Sivan. Après cela, Moshe monte sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il redescend avec les premières tables de la loi, le 17 Tammuz. Il y a le veau d'or, il casse les tables. Et à ce moment-là, il commence 40 jours et 40 nuits de slichot entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. C'est à ce moment-là qu'il demande pardon. Et à Rosh Chodesh Elul, Dieu lui dit « Salachti kidvarecha », c'est bon. Et à ce moment-là, Moshe remonte sur la montagne 40 jours, 40 nuits, entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, et il revient avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah. Rabotai, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que normalement, on devrait faire les slichot quand ? Entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. Bon, les rabbanim se sont dit que comme c'était juillet-août, en général, les gens n'étaient pas là. Ils étaient en vacances, donc ils se sont dit, on ne va pas leur mettre les slichot pendant les vacances. Ou alors, c'est quelque chose de plus sérieux. C'est qu'il ne s'agit pas ici de demander pardon parce que Moshe a demandé pardon. Il s'agit de demander pardon au moment où, à l'époque de Moshe, le pardon a déjà été donné. Ainsi, tu te rattaches à une réalité où Akadosh Baruch Hu a déjà pardonné. Et c'est ça qui te rend la chose tellement plus facile. Parce que tu sais que Akadosh Baruch Hu pardonne. Je commence mes slichot à moi au moment où je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit Salachti kidvarecha. Ainsi, mes slichot, sont quelque chose de beaucoup plus, on va dire, positif plutôt que stressant. Mais pour cela, il y a une condition. C'est que je sois conscient de la raison, pas la raison, mais du rôle que j'ai à jouer une fois que les slichot sont terminés. Une fois que les slichot sont terminés, j'arrive à Rosh Hashanah. Et lorsque j'arrive à Rosh Hashanah, Rabotai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez remarqué qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de slicha. À aucun moment, à Rosh Hashanah, on va parler de faute. On ne demande pas pardon à Rosh Hashanah. On fait un break sur nos slichot. On les recommencera après jusqu'à Yom Kippour. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot. À tel point que lorsqu'on va dire Avinu Malkenu à Rosh Hashanah, chez les Sfaradim, et corrigez-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, chez les Sfaradim, on ne dira pas la première phrase de Avinu Malkenu qui dit Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. On ne la dit pas, parce qu'on ne veut même pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah. C'est-à-dire non seulement on ne fait pas Slicha, mais en plus, on ne rappelle même pas les fautes. À tel point, les amis, qu'il y a un minhag fantastique, qu'on ne mange pas de noix à Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on dit que la gematria, la valeur numérique du mot égoz, noix, c'est la même que celle du mot chet, faute. Et donc, pour ne pas rappeler cela, alors on ne mange pas de noix. Le plus fou dans le minhag, c'est que c'est faux. La gématria du mot « égoz », c'est « aleph », ça fait 1, « gimel », ça fait 3, donc ça fait 4, « vav », ça fait 6, donc ça fait 10, Et Zayin, eh bien, ça fait combien? Bah, ça fait 17. Alors, vous allez me dire, non, mais tu sais quoi? Peut-être qu'on peut écrire Egoz sans Vav. Donc, ça va faire 1 plus 3 plus Zayin. Ça va faire 4 plus 7, ça va faire 11. Ah, il y a Femeon. Ou alors 17. Et attendez, et Chet, c'est combien? Ben, Chet, c'est Chet. Ça fait 8. Et on a également 9 de tête. Ça fait 17. Sauf qu'il y a un Aleph aussi. Ça fait 18. C'est-à-dire que Egoz, c'est 17, Chet, c'est 18, c'est pas le même. Mais c'est pas grave, ça ressemble, ça ressemble. Et comme on veut pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah, eh bien, on mange pas de noix, même si ça tombe pas exactement. Donc, à Rosh Hashanah, si on parle pas de Slicha, alors on parle de quoi? D'abord, on n'a pas besoin de parler de Slicha à Rosh Hashanah parce que Salah, c'est où? Donc, à Rosh Hashanah, je m'occupe d'autre chose. Eh bien, de quoi je m'occupe à Rosh Hashanah? Amis, j'ai reçu de mon maître, le Rav Cherki, et je pense de toute personne, en fait, qui a les yeux en face des trous, un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Le Rav Cherki m'a enseigné au nom du Rav Tzvi Yehuda Kook que lorsque tu veux savoir ce que la Torah a à dire sur un sujet, je sais, c'est révolutionnaire ce que je vais dire, eh bien, regarde ce qui a marqué dans la Torah. C'est révolutionnaire, et pourtant, de la même façon, si tu veux savoir à quoi il faut penser pendant Rosh Hashanah, eh bien, regarde ce qui a marqué dans le Marzor de Rosh Hashanah. C'est révolutionnaire, je le sais. Et pourtant, eh bien, quand on regarde le Marzor de Rosh Hashanah, eh bien, de quoi parle-t-on dans toutes les tfilot de Rosh Hashanah? On parle d'une seule chose. Ata kadosh veshimcha kadosh ukdoshim bechol yom yalelu chasela ki el melech gadol vekadosh ata. Le dor vador amlichu lael ki u levado marom vekadosh. Uvechen itkadash shimcha Hashem Eloheinu al Yisrael amecha v'al Yerushalayim yirecha v'al tzev mishkan kevodecha v'al malchut bet David meshirecha v'al mechon arvecha lach uvechen ten pachdecha Hashem Eloheinu al kol ma'asecha v'imatecha al kol ma shebarata v'iraucha kol ha'ma'asim v'ishtachavu lefanecha kol ha'beruim v'asu kulam aguda echad la'asot ratzonecha b'levav shalem. כמו שידענו השם אלינו שעל שלטן לפניך עוד בידיך וגבורה בנרא ושמך נורא על כל מה שבראת. Et donc on, tout ceci, tout ce que je viens de lire, amène à quoi? ותמלוך אתה השם לבדיך. C'est-à-dire que toutes les tfilot de Rosh Hashanah ne parlent que d'une seule chose, להמליך את הקדוש ברוך. Couronner Dieu. Voilà de quoi on parle à Rosh Hashanah, Rabotai. Ah, couronner Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Je ne peux pas le faire si je suis encore plein de fautes. Parce que le Rav Kook dans Rota Tshuva me dira que la faute me rend esclave. Ce qu'on appellera dans Rota Tshuva « Avdut Achetit ». Je me suis donc libéré de mon esclavage de la faute durant mes slichot et maintenant je peux me tenir devant Akadosh Baruch Hu et le couronner. Et une fois que j'ai couronné Dieu, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Uvechen itkadesh shimcha. Oui, les amis, couronner Dieu, ce n'est pas une fin en soi. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Je vous rappelle qu'en tant que membre du peuple juif, pourquoi Rosh Hashanah est Yom Adin? C'est une excellente question. Je me pose la question, est-ce que j'y réponds maintenant ou est-ce que j'y réponds à la fin? Je vais vous demander de garder votre question. Si jamais j'y ai pas répondu, alors reposez-la moi à la fin. Parce que je pense que je vais y répondre. D'accord? Bekitsour, en tant que Bnei Israël, en tant que membre du peuple juif, nous avons une mitzvah. Une mitzvah qui n'est pas une mitzvah pour les nations, mais qui est une mitzvah pour le peuple juif. Nous dit le Ralmam dans Ilchot Yesodei HaTorah, Kol Beit Israël metzuvim al kiddush Hashem. Nous avons une mitzvah de alken itkadesh shimcha. Nous avons une mitzvah de lekadesh shem shamayim. Et qu'est-ce que ça veut dire lekadesh shem shamayim, Rabotai? Lekadesh shem shamayim. Lekadesh shem shamayim, ça veut tout simplement dire qu'il faut le proclamer pas seulement à la synagogue, mais il faut le proclamer également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il faut le proclamer aux oreilles des nations du monde. Kiddush Hashem, ça ne peut pas se limiter aux frontières d'Israël. Am Israël a le rôle de couronner Dieu et de le proclamer aux oreilles du monde. C'est ainsi que le prophète Yechezkel nous dira « Veit gadilti, veit kadishti, venodaati leine amigoyim rabim, veyadou ki ani Hashem. » Le but de la Géoula, le but de Hamlachat Hashem, c'est que le monde entier le reconnaisse. Si le monde entier ne le reconnaît pas, eh bien, on a raté le coche. Je vous rappelle ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire dans la Tfila de Rosh Hashanah, qu'il faut finalement que Ve'yasu kulam aguda echad la'asot retzonecha belevav shalem. Le monde entier doit le reconnaître. Eh bien, à propos de cette partie de la Tfila, il y a un commentaire extraordinaire du Rav David HaKohen, du Rav HaNazir. Lorsqu'on dit que Ufren itkadesh shimcha Hashem Eloheinu al Yisrael amecha et aussi au monde entier, Uvechen ten bardecha Hashem Eloheinu al kol ma'asecha, on nous dit Ve'yasu kulam, et les nations feront aguda echad la'asot retzonecha belevav shalem. Nous dit le Rav HaNazir à Rav David HaKohen, eh bien cette partie de la tfila s'est réalisée. Les nations ont bel et bien fait une organisation qui s'occupe de la Asod Retzoncha, qui s'occupe de faire la volonté de Dieu. Quelle est cette organisation que les Goïm ont mis en place pour faire la volonté divine? Ben vous la connaissez, c'est l'ONU. L'ONU, c'est une organisation qui a été créée dans un seul but. Quel est le but officiel de l'ONU? Ben, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait la paix. Et Maou Retsono shel HaKadosh Baruch Hu, dira le Talmud, et ainsi il reprendra le Rambam, Lo Matsa HaKadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha Yoter Me'ashalom. Yoter Me'ashalom. Hashalom Zeh HaKli, c'est l'ustensile que Dieu utilise pour faire résider sa bracha dans le monde. Ainsi donc, l'ONU, ben son rôle, c'est de faire la volonté de Dieu. Me dit le Rav HaNazir, oui, mais attention, le problème, c'est qu'ils le font, mais ils ne le font pas belevav shalem. Ils ne le font pas avec un cœur entier, ils le font pour leurs intérêts. Et donc, il y a un problème. Et comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, eh bien, c'est le grand problème, c'est que l'ONU se trouve à New York, alors qu'il devrait se trouver à Jérusalem, pour que vetim lo chata levadecha be'ar tzion. Pour qu'enfin Dieu puisse être proclamé comme roi du monde depuis Jérusalem. Alors on a dit, les slichot sont là pour me faire prendre conscience que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est de couronner HaKadosh Baruch Hu et de proclamer sa royauté aux oreilles du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on refuse de le proclamer. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes conscient, il y a une guerre de civilisation clairement établie entre d'un côté le monde occidental, héritier de la théologie chrétienne, et le monde oriental, et je ne parle pas encore de l'extrême-orient, le monde oriental qui est le porteur de l'idéologie musulmane. Esav face à Ishmaël. Et vous aurez remarqué évidemment qu'Israël se trouve en plein milieu. Et, alors, pour citer le Rav Cherki explique qu'il y a dans ce conflit de civilisation deux voies complètement différentes et opposées qui sont celles, n'est-ce pas, le fait d'une peur de perte d'identité. C'est-à-dire, il faut que vous précisiez votre question, je n'ai pas très bien compris la question. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a donc deux civilisations qui ont un message qui s'oppose. Dans la civilisation occidentale, l'héritier du christianisme, qui finalement a décidé de devenir laïque, a mis l'homme au centre du monde et Dieu à la périphérie, si tant est qu'il est toujours là. Alors que dans la civilisation musulmane, c'est Dieu qui est au centre du monde et la créature, l'humain, est à la périphérie, elle n'est pas importante. Tout doit être muslim, tout doit être soumis à Dieu. Quel est le message du judaïsme? Quel est le message que nous avons, oui, à apporter, eh bien, aux nations du monde? Quelle est la voix d'Israël? Qui a raison? C'est Dieu qui est au centre et l'homme en périphérie? Ou c'est l'homme qui est au centre et Dieu en périphérie? Eh bien, la réponse du judaïsme est très simple. C'est ni l'un ni l'autre. Pour le judaïsme, ce qui est au centre de toute chose, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. La rencontre, comme a expliqué le Rav Cherki dans son cours, la rencontre panim el panim entre le créateur et la créature, eh bien c'est cela qui est au centre du monde. Et ça, c'est le message de Am Israël. Voilà le message que nous devons porter et apporter aux oreilles du monde. Ah oui, mais attention, il y a un problème. Quel est le problème? Eh bien, le problème, les amis, c'est que pour faire entendre cette dimension-là, eh bien, nous devons comprendre qu'il y a une... Nous-mêmes devons comprendre qu'il y a une importance fondamentale à l'écoute. Si l'essentiel, c'est le dialogue, c'est qu'il y a quelqu'un qui me parle. Après, je lui réponds, mais il y a quelqu'un qui me parle. Et c'est pour ça que la mitzvah qui ouvre ces fêtes de Tishrei, c'est la mitzvah lishmoa kol shofar. Il n'y a pas de mitzvah de sonner du shofar. Il y a une mitzvah d'écouter le shofar. Histoire de justement comprendre maintenant que, eh bien, le plus important est de savoir entendre. Est-ce que je sais entendre celui qui m'appelle? Est-ce que je suis conscient non seulement d'avoir un rôle à jouer, mais je suis prêt à écouter quel est ce rôle? Vous savez, le Rav Anazir qui a écrit un livre qui s'appelle « Kol HaNevoah », qui base toute sa Torah sur la préparation du peuple juif à réécouter la parole de Dieu, nous raconte comment il est devenu l'élève du Rav Kook. C'est une histoire absolument incroyable. Évidemment, il a entendu parler du Rav Kook, et alors qu'il habitait en Europe, le Rav David HaKohen, il a entendu dire que le Rav Kook était lui aussi en Europe. Alors il a dit « je vais aller le rencontrer ». Et il raconte comment le matin de sa rencontre, il s'est trempé dans les eaux du Rhin pour partir à la rencontre du Rav Kook. Et lorsqu'il arrive, il trouve le Rav en train de discuter avec son fils, Be'alacha, Be'agada, et de philosophie grecque. Et le Rav Anazir raconte quelle ne fut pas sa déception de sa rencontre avec le Rav Kook. Il dit, bon, ok, ils ont parlé avec son fils, lui et son fils, bon, c'était pas mal, mais bon, voilà, sans plus. Et puis, je me suis rendu compte qu'en termes de philosophie, j'étais meilleur qu'eux. Tout ça pour ça. La nuit était déjà tombée, il s'est dit, je vais pas rentrer chez moi maintenant en pleine nuit, je vais passer la nuit ici. Mais il raconte que dans son lit le soir, lo shachav libi. C'est-à-dire, son cœur n'était pas en paix. On m'avait tellement parlé du Rav Kook et j'avais tellement d'espoir dans cette rencontre. C'est pas possible, il manque un truc. Et il raconte que le lendemain matin, il a été réveillé par la tfila du Rav Kook, par la voix du Rav lorsqu'il faisait Birkot HaShachar et tfilat HaAkeda. Et au moment où il a entendu ce qui allait devenir son maître, il a dit Vene farti le ishacher, matsati li rav. J'ai trouvé mon rav. J'ai entendu la façon dont lui, il entend l'appel de Dieu, Zéou, Zemaspik. Rosh Hashanah, après les Slichot, après le moment où, comme on a dit, je me suis vérifié, et en plus, je me suis attaché au moment où Dieu a déjà pardonné, eh bien, j'ouvre mes oreilles et mon cœur pour être prêt à entendre que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle, on l'a dit, c'est de proclamer aux yeux du monde, eh bien, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le patron. Pour cela, il y a un danger. Mais puisque nous sommes dans cette partie du continent d'Afrique, que devons-nous faire pour proclamer ? Allez, je vais voir dans le chat pour voir la fin de la question. Pour proclamer l'infini, béni soit-il ! Mais non, nous ne sommes pas une partie du continent de l'Afrique. Nous sommes à la jonction, justement. Nous devons expliquer que lorsque le christianisme place l'homme au centre et lorsque l'islam place Dieu au centre, en fait, c'est la rencontre des deux qui est au centre. Et donc, nous devons proclamer cet idéal de Gisha, Panim el Panim. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de rencontrer Dieu, et j'ai entendu tout à l'heure le Rav Cherki le dire, le danger, c'est l'annihilation. Le danger, eh bien, ce serait de dire, pour rencontrer Dieu, dialoguer avec lui, eh bien, le monde dans lequel je vis, c'est un écran trop imposant. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux se détacher du monde, mourir pour rencontrer Dieu. C'est par exemple l'idéal prôné en Extrême-Orient. Dans le bouddhisme, l'idéal est de l'annihilation du corps pour atteindre le nirvana. Dans l'ascétisme des moines chrétiens, on retrouve cela également. Puisque l'idéal chrétien, même s'il n'est pas halakha le maase, mais l'idéal chrétien des prêtres, particulièrement dans le monde catholique, n'est de ne pas se marier et d'arriver à une fin de la vie, de amoindrir ses forces de vie. Yom HaKippurim, comme a dit le Rav Cherki, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le Rav l'a déjà expliqué beaucoup mieux que moi, c'est justement de prendre conscience que tout le but de Yom HaKippurim, c'est puiser la vie à sa source pour la mettre en pratique Ba'olam Hazeh. Yom HaKippurim, c'est le moment où cette vie, eh bien, je montre que la rencontre avec Dieu n'est pas faite pour m'annihiler, mais au contraire, est faite pour me donner de la place. Lorsque le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim, lorsqu'on fait, comme a dit le Rav Cherki, la Seouda de Motsei Yom HaKippurim, je viens dire, je suis prêt eh bien, à remplir mon rôle dans cette vie. Si à Rosh Hashanah, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer, que je devais couronner Dieu, à Yom Kippur, je comprends que c'est à moi de le faire dans ce monde. Vous connaissez ce verset? Ce verset, on peut le décomposer mot par mot. Et à chaque fois, essayer de se trouver des excuses pour ne pas remplir notre rôle. Ve'atem advekim. Quoi? Vous me demandez d'être collé? Alors, ça doit certainement être collé à quelque chose de facile. Non. Ve'atem advekim. Bahashem Elohechem, je dois être collé à Dieu. Tov, être collé à Dieu, ça sera certainement après la mort. Non, Chaim, ah bon, c'est en vie que je dois faire ça dans ce monde. Bon, c'est certainement uniquement les grands rabbins. Non, Kulchem. Bon, alors ça, c'est certainement après que j'ai passé 100 ans à étudier. Non, Ayom. Vous avez un rôle à jouer, ce rôle, c'est maintenant qu'il faut le jouer. À Rosh Hashanah, j'ai pris conscience de mon rôle. À Yom HaKippurim, je suis conscient que c'est à moi de le mettre en place ici. Et arrive donc la fête de Sukkot. Arrive la fête de Sukkot dans laquelle eh bien, je vais associer Umot HaOlam à ce dévoilement extraordinaire. 70 parim, 70 korbanot, 70 sacrifices en fonction des 70 Umot HaOlam. Parce que maintenant, les nations doivent prendre leur part également. Dieu ne doit pas être simplement le maître du peuple juif, il est le maître du monde. Ainsi, le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, nous dira que les Atid Lavo, les Goyim, Rotsim, ils veulent se rattacher à Dieu. Et ils demandent une mitzvah. Et quelle est la mitzvah que Dieu leur donne? Mitzvah Tsukkah. Mais c'est Tsukkah. Tsukkah, c'est Tzila Dimne Emnuta. C'est Tzela Emuna. Tsukkah, c'est le moment où je rentre tout entier dans la royauté divine. Tout entier dans la royauté divine. Lorsque je rentre dans la Tsukkah, je suis entouré de mitzvah. C'est l'une des trois mitzvot que je pratique même lorsque je dors. Comme le fait d'habiter en Israël, comme le fait d'avoir la Brit Mila et le fait d'être dans la Tsukkah. Je n'ai même pas besoin d'être conscient. À partir du moment où je suis rentré dans la Tsukkah, je fais partie de quelque chose de grand. Et c'est ça qu'on veut enseigner également aux nations du monde. Alors vous allez me dire, oui mais avant de t'occuper des nations du monde, ce serait peut-être sage de s'occuper de nous. Hein, avant d'aller essayer de corriger le monde entier, peut-être qu'il faudrait s'occuper de notre identité personnelle. Bien sûr. Mais tu ne peux corriger ton identité personnelle que si tu es au courant qu'elle a un rôle à jouer dans le collectif le plus global. C'est ce qu'on appelle klal sheutzarich lifrat vefrat sheutzarich liklal. Une fois que je suis conscient de la grandeur du message que j'ai à apporter, alors, évidemment, ça va de pair. Alors, je peux mettre en avant mon identité personnelle qui va m'aider à remplir ce rôle. Et c'est exactement ce que l'on va dire dans les Slichot Sfaradiot. Dans les Slichot Sfaradiot, eh bien, on va dire, dans, par exemple, les Slichot classiques, on va nous dire, à propos de ce qui s'est passé avec Yona Hanavi, Ben Adam, Malecha Nirdam, pourquoi tu dors? Kum kera betachanunim, shfor sicha, derosh selicha, meadona adonim, recha tsutear veal teacher, beterem yamim ponim, umeera rutz leezra, lifne shochen meonim, umipesha agam rasha, bereach upachad measonim, anna sheesh imcha yod'ei Israel neemanim. La slicha nous dit, hé, réveille-toi! Réveille-toi! Rabbi Yehuda Halevi écrira même une slicha extraordinaire. Rabbi Yehuda Halevi dira pas Ben Adam, Malecha Nirdam. Il dira Adam, Alter Adam. Pas pourquoi tu dors, mais ne t'endors pas. Allô, tu as un rôle à jouer. Les slichot sfaradiot nous apprennent que nous avons un rôle à jouer. Les slichot ashkenaziot nous expliquent quel est ce rôle à jouer. Puisque les slichot ashkenaziot nous diront Lecha shamaim af lecha eretz, tevel umloa ata yesadetam, ata yitzavta kol gevulot eretz, kaitz vachoref ata yitzartam, ata ritzatzeta rashe leviatan, titnenu ma'achal leam tzilciim, ata bakata ma'ayan v'nachal ata oshavta na'arot eitan. On parle de la nature, on parle de la création du monde. Je croyais qu'on parlait de slichot, que j'avais mal fait la bracha. Les slichot sfaradiot nous disent, Adam, toi tu as un rôle à jouer mon ami. Les slichot ashkenaziot nous disent, ce rôle, c'est tikkun olam b'malchut shaddai. Ça ne s'arrête pas à ton Shabbat. Le rôle ultime du peuple juif est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde entier et de l'étaken olam b'malchut shaddai, de corriger le monde entier. Ah oui, pour cela, il faut qu'il sache qui il est. Évidemment, si je n'ai pas conscience de mon identité, tant au niveau individuel qu'au niveau du peuple d'Israël, je ne peux pas avoir une influence sur les autres. C'est pour ça que Chag HaSukkot vient après Rosh Hashanah où j'ai entendu l'appel et Yom HaKippurim où j'ai retrouvé Itzumo Shel Yom, où j'ai retrouvé mon identité profonde d'Israël grâce au Kohen Gadol, comme le Rav Sherki nous a expliqué. Et donc, je peux à ce moment-là arriver à Chag HaSukkot. Une fois que j'ai compris cela, et une fois que j'ai mis en pratique tout cela, alors, et seulement alors, je peux comprendre eh bien, cette phrase du Rabbi de Lubavitch avec laquelle on a commencé, qui nous dit la façon dont on se tient à Shabbat Bereshit, eh bien, nous jette une lumière sur toute notre année dans la façon dont on va être. Le Baal Shem Tov écrit dans Keter Shem Tov, dans les Osafot numéro 6, me dit le Baal Shem Tov, je cite, « Aor ve'achayut shel ha'chokhma shemeir b'shabbat bereshit. » La lumière et la vitalité et la sagesse qui sort du Shabbat bereshit, nimshach al klalut ha'shana, continue sur toute l'année. Al kol yemot ha'shana. En al yemot ha'chol ve'en al yemot ha'shabbatot ve'amoadim ha'klaliim. Également pour les journées de Chol et pour le Shabbatot, yamim tovim. À la pratim shel kol yachid va la klal shel kol klal. Yom haknisa, la bet sefer, il appelle ça le cheder, yom bar mitzvah, yom hanisuin, vechadome vechadome. Kulam nimshachim mi shabbat bereshit. Nous dit le Baal Shem Tov, Shabbat bereshit n'est pas le début de l'année. Shabbat bereshit, c'est la conclusion des chagim qui t'ont fait prendre conscience que tu devais prendre la responsabilité de Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Pourquoi on lira Parashat Bereshit à Simchat Torah après Rosh Hashanah, Yom HaKippurim et Sukkot? C'est pour que tu comprennes que toutes ces fêtes-là t'ont amené à prendre conscience que maintenant, Kivosh Shavat Mikol Melarto Asher bara Elohim la'asot, et que c'est à toi d'agir. Rosh Hashanah, l'Eslichot Slicha, c'est comprendre que j'ai quelque chose à faire. Rosh Hashanah, c'est entendre quel est ce rôle. Yom HaKippurim, c'est prendre la chayout qui me permet de réaliser ce rôle. Et Chag HaSukkot, c'est le moment où je mets en pratique ce rôle. Shabbat Bereshit, c'est le moment où je me tiens devant Ribono Shel Olam et je dis « Ani Mukhan ». Et la reine, mes Koubalim nous enseigne que ce que certains disent avant certaines brachot, ce que les Koubalim disent tout le temps, les Shem, Yichud, Kutcha, Berichu, Shrinte, Ineni, Mouchan, Mezuman, Lekayem, eh bien, c'est la réponse à la question que Kadosh Baruch Hu t'a posée. Est-ce que tu es prêt à remplir le rôle qui est le tien? Shabbat, merci beaucoup. C'est le moment où on est prêt à prendre ce rôle. Alors pourquoi c'est Yom Hadin? Et je termine par là pour ne pas prendre le temps du Rav Ben Arosh. On m'a posé la question, pourquoi alors c'est Yom Hadin à Rosh Hashanah? Eh bien simplement parce que à Rosh Hashanah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu me juge sur quoi? Sur la décision que je vais prendre maintenant à Rosh Hashanah d'endosser ce rôle, d'être prêt à entendre ou pas.
Merci voilà. Beaucoup Rav.
Chazak u Baruch, v'shana tova à tout le monde.
Shana tova, Rav.